France Culture.
France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Los Angeles, cerné, ravagé par les flammes des quartiers entiers, les uns après les autres, Pacific Palisades, Malibu, Hollywood, et des morts 24 à ce jour. Alors pour décrire ces incendies, une expression revient régulièrement, celle de méga-feu. Mais l'expression est-elle pertinente? Qu'est-ce qu'un méga-feu? Qu'est-ce qui fait son caractère inextinguible? En quoi contribuent-ils ces méga-feux à la boucle rétroactive du réchauffement climatique? Et en quoi sont-ils un point de bascule dans notre rapport de contrôle à l'environnement? Pour en parler, une philosophe ce soir, Joël Zask, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence à l'université Aix-Marseille, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, spécialiste du pragmatisme, de philosophie sociale et de démocratie participative, et vous êtes l'autrice de cet ouvrage intitulé « Quand la forêt brûle », un livre qui a paru aux éditions Premier Parallèle, c'était en 2022. Merci à vous d'être ce soir dans « Question du soir ».
Tiffany sort de sa voiture et découvre sa maison en cendres. En voyant Brandon, un voisin, elle s'excuse d'avoir hurlé. Brandon pensait retrouver des ruines lui aussi. Mais dans cette rue d'Altadena qui monte vers la montagne, sa maison est l'une des seules encore debout. Il ramène péniblement à sa voiture un ordinateur, des photos de famille et sa trompette.
Ça n'a aucun sens. Vous avez bien vu, toutes les maisons dans toutes les directions ont disparu. Je ne sais pas vraiment quoi penser de tout ça. Les magasins, les restaurants ont brûlé, les écoles aussi. Comment on va envoyer nos enfants à l'école? Personne d'autre ne peut vivre ici. Même nous, on ne va pas pouvoir pendant un moment, avec les dégâts de la fumée. Ça va prendre du temps à la ville pour se relever, si elle y arrive.
Extrait du reportage signé Loïc Piala dans le journal de France Culture de 8h, c'était le 9 janvier dernier. Joël Zask, avant de parler des méga-feux, je voudrais qu'on remette en contexte ces incendies de Los Angeles. Il faut le rappeler, 2024, c'est la première fois que nous avons dépassé le seuil de 1,5 degré de réchauffement climatique. C'est également l'année la plus chaude de l'histoire. Est-ce que ces incendies illustrent la matérialisation concrète, tangible du réchauffement climatique?
En tout cas, du dérèglement climatique, c'est certain. Là, on a même une forme paroxystique du dérèglement qui est lié aux activités humaines pour l'essentiel. Et là, effectivement, je pense que les liens ont été faits déjà depuis plusieurs années et que plus le temps passe et plus ça se confirme. C'est-à-dire que le méga-feu, il est lié à la combinaison de facteurs climatiques extrêmes et tout à fait hors normes. Ça peut être une période de sécheresse très longue, des températures trop hautes, disons une inversion, pour ainsi dire, des saisons, des ravageurs aussi qui fragilisent l'équilibre de la forêt, du fait évidemment du changement des températures et des conditions hydriques, etc., etc. Donc là, effectivement, je crois que même si le lien entre les méga-feux et le dérèglement climatique est souvent minimisé, mis un peu en sourdine, mis entre parenthèses. Ben, je crois qu'il faut quand même commencer par là, reconnaître que les liens là sont très très évidents, très forts.
Il y a un paradoxe qui peut paraître frappant avec les méga-feux, avec les incendies. On se dit d'un côté c'est le retour de la nature hein, qui vient frapper, bousculer, détruire les choses humaines. Et dans le même temps, c'est la nature elle-même qui est détruite et ravagée. Alors comment est-ce que vous lisez vous-même ces feux en tant que philosophe? Est-ce que ces feux, c'est le fruit, la volonté de la nature ou bien autre chose?
Alors, je ne sais pas si on peut dire de la nature qu'elle est une volonté. En tout cas, évidemment, il y a un processus mécanique qui est à l'œuvre dans le méga-feu, justement en lien avec la combinaison de facteurs que j'ai très rapidement évoqués, auxquels il faut ajouter aussi, bien sûr, la quantité de combustible ou de matière sèche disponible. Parce que quand il n'y a plus rien à brûler, le méga-feu va s'arrêter. Ceci étant, ce qui est frappant à Los Angeles, c'est que ça n'est pas la nature vierge qui est en train de brûler, c'est la culture. C'est-à-dire, ce qui brûle, c'est une ville évidemment qui est très étalée, une ville dans laquelle il y a beaucoup d'arbres, une ville dont les maisons viennent au contact de la végétation, une ville qui a été très arrosée aussi pendant 2 ans et qui, du coup, a fait place à une végétation relativement luxuriante, Une ville qui, par ailleurs, s'orne de plantes bourrées d'huile, notamment de plantes exotiques qui sont extrêmement inflammables. Les lauriers, par exemple, sont très inflammables. Les eucalyptus sont très inflammables, etc., etc. Et donc, l'équilibre, disons, naturel de la région est certainement totalement perturbé, si tant est qu'il y ait encore une nature dans ces régions-là. Et par ailleurs, donc là, ce à quoi on assiste, c'est quand même à, effectivement, une nature, parce que le feu, qu'il soit petit ou grand, est un événement tout à fait physique et naturel. Donc une nature qui détruit la culture, enfin, si on peut dire les choses de cette manière un peu schématique. En tout cas, une nature qui révèle son caractère totalement disproportionné par rapport à nos moyens humains de contrôle et d'organisation, de rationalisation.
Il y a une lecture qui se répand énormément, notamment sur les réseaux sociaux, pour tenter de comprendre, ou plutôt d'interpréter, ces incendies, ces méga-feux qui ravagent une partie de Los Angeles. C'est l'idée selon laquelle les riches, les ultra-riches de cette ville seraient soumis à un châtiment divin. Comment est-ce que vous interprétez vous-même cette interprétation, si je puis dire, en tant que philosophe ?
Ouais, elle est extrêmement problématique. Très clairement, les méga-feux ne sont pas un châtiment divin, et en fait, ils ne réduisent pas uniquement la maison des ultra-riches. Beaucoup de gens extrêmement modestes, voire pauvres, ont vu leurs conditions de vie et leurs habitations totalement détruites par les feux qui sont en train de se déchaîner. Donc, évidemment, il y a une focale sur les grands riches et les gens célèbres. Ceci étant, cette focale est excitante, mais elle est totalement fausse par rapport aux faits. Et par ailleurs, je pense qu'il y a, dans cette vision, qui est très théologique finalement, il y a dans cette vision... la volonté de désigner un coupable, en fait. Et ça, c'est très frappant. C'est ce qu'on fait tout le temps et depuis longtemps à propos des méga-feux. On cherche des coupables, on veut faire tomber des têtes, on veut qu'il y ait un responsable. Et ce responsable, c'est toujours une personne. Si vous voulez, c'est peut-être lié au fait que le feu est très paradoxal, puisque il y a toute une mythologie suivant laquelle, et peut-être c'est aussi une réalité d'ailleurs historique, suivant laquelle c'est bien la domestication du feu qui serait la source de la civilisation. Et en même temps, le feu se retourne contre nous. Il est symbole de vie, il est symbole de mort et de destruction, les ruines et les cendres, etc. Et donc, en fait, on a du mal à voir que le feu, il a aussi une réalité non anthropique. Il a une réalité anthropique, c'est sûr, notamment dans son déclenchement aujourd'hui. Mais il a aussi une réalité naturelle, physique. Et là, cette réalité physique, on a vraiment du mal à l'identifier. Et d'autre part, à reconnaître son indépendance par rapport à tous les actes humains. Ce qui est très important avec le méga-feu, c'est d'ailleurs, ça fait partie de sa définition. C'est une définition que j'avais d'ailleurs retrouvée déjà, enfin rencontrée en 2017, parce que le livre que j'ai fait date de 2019 et je l'ai écrit sous l'effet d'un choc quand j'ai vu une partie du Var brûler, en fait. C'était le Cap Bénin, en fait, en 2017. Mais en tout cas, ce qui est très frappant, c'est que justement le feu ne s'éteint pas, il est inextinguible. Un feu de ce type ne pourra mourir que de causes naturelles. Et donc, on a beaucoup de mal à comprendre que la nature ne nous veut ni bien ni mal. La nature, c'est un ensemble de mécanismes et de déterminismes. Et en l'occurrence, déclenché par la conjugaison de facteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, effectivement, ces phénomènes sont proprement disproportionnés par rapport à nos capacités techniques de contrôle.
Il est inextinguible, Joël Zask, ce méga-feu, et dans le même temps, il a un caractère extrêmement troublant parce qu'il est aussi évasif et arbitraire. Des choses brûlent, d'autres non, des maisons entières sont calcinées, alors qu'une balançoire, un morceau de haie ou de jardin, lui, va rester intact. Comment est-ce que vous interprétez là aussi ce caractère, j'allais dire, très arbitraire et aussi très, très injuste de ce méga-feu ?
Alors là, vous utilisez des termes très anthropocentriques, si on peut dire.
Absolument.
Mais voilà, je le
faites bien de corriger mes biais.
Oui, on est bien enclin à le faire. Il fait partie aussi de la définition des méga-feux de le fait qu'ils ont un comportement qu'on ne comprend pas. Et ça, c'était aussi identifié par Codas et par d'autres chercheurs californiens dès 2017. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de s'interroger sur le comportement de ces feux. Ils ont un comportement très, très différent des feux auxquels on était habitués jusque-là, c'est-à-dire des feux de surface, des feux dirigés, de l'écobuage, des feux d'entretien, et aussi des feux naturels, en tout cas par des feux naturels qui interviennent parfois plutôt dans les zones même humides ou en hiver, etc. Donc il y a eu des feux dévastateurs dans le passé, mais pas du tout à la cadence qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, en fait, ces feux, ces méga-feux ont des propriétés très, très étonnantes. Ils peuvent revenir sur leurs pas. Ils fabriquent leur propre climat, dont ce qu'on appelait les tornades de feu. Ils créent des phénomènes qui les attisent. En fait, ils s'auto-gouvernent, ils s'auto-produisent, ils s'auto-entretiennent. Et ils couvent sous la surface. Ils peuvent couver quelques temps et puis d'un coup exploser. C'est apparemment ce qui s'est passé à Palisades.
À Pacific Palisades,
au moment des feux d'artifice, semble-t-il que... ça, c'est très, très crédible comme explication, parce que c'est précisément ce que fait un méga-feu. Et parfois, il emprunte le chemin des racines qu'il suit. Après, il va consumer entièrement la souche des grands arbres, ce qui fait qu'il est très mauvais pour la forêt aussi, d'ailleurs. Et puis ressurgir à un moment donné. C'est pour ça que les pompiers disent, quand on a éteint les grandes flammes, ou quand les grandes flammes se sont éteintes d'elles-mêmes, vu qu'il n'y avait plus rien à brûler, par exemple, ou que le vent est tombé, ou que la pluie ou la neige est tombée, eh bien, à ce moment-là, commence un travail très long, très méticuleux des pompiers qui vont guetter la moindre fumerole, le moindre redépart de feu, etc. Parce que là, on croit que tout est terminé, mais en fait, pas du tout. C'est là qu'il faut aussi continuer d'être extrêmement vigilant et là, pour le coup, intervenir très rapidement parce qu'on a très peu de temps pour intervenir si les vents sont toujours au rendez-vous.
Je voudrais vous faire entendre, Joël Zask, la voix de Stephen Pine. Il s'exprimait dans Nordic Animism, c'était en 2023, et il nous parle d'un concept que vous connaissez bien, celui de pyrocène.
I propose that... We have created a pyrocene.
J'ai suggéré que nous avions créé le pyrocène, c'est-à-dire une ère du feu, ce qui est l'équivalent d'une période glaciaire. Mais cela va au-delà du simple climat. Les extinctions de masse, les changements du niveau de la mer, les changements dans la biogéographie, tout ce que nous voyons actuellement est façonné par le feu. En un sens, nous chassons la glace en la remplaçant par le feu. Lorsque l'Holocène commence, nous avons un monde vulnérable au feu et nous avons une créature, l'humain, brandissant le feu qui peut se déplacer n'importe où. Mais dès lors que nous avons commencé à brûler des énergies fossiles, c'est devenu complètement hors de contrôle. Et nous vivrons désormais une ère du feu.
Pourquoi, Joël Zask, ce concept de pyrocène, d'ère du feu, vous paraît-il pertinent pour mieux comprendre sans doute aussi le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui?
Oui, alors quand on écoute Stephen Pine, on comprend qu'il y a deux pyrocènes, en fait, qui ne se ressemblent pas du tout. Il y a d'abord le pyrocène numéro 1, qui correspond aux usages anthropiques du feu, ce qu'il appelle d'ailleurs les feux aborigènes, et qui remonte à 2 millions d'années. C'est-à-dire depuis que Homo erectus est apparu, les humanoïdes ont pratiqué le feu, ils savaient conserver les flammes, et partout où ils sont allés, ils ont mis le feu, et là où ils ne pouvaient pas mettre le feu, ils ne sont pas allés, en gros. Et donc, en fait, l'organisation de la population des différentes espèces humaines qui se sont succédées sur la Terre, a dépendu très étroitement des usages du feu, si bien que la plupart de nos paysages sont façonnés, entre autres. Bon, ça peut être par les vers de terre, bien sûr, mais c'est aussi par les usages anthropiques du feu, par la manière dont les humains ont chassé, débroussaillé, organisé, fait pousser des plantes par leurs usages du feu, qui sont devenus très spécialisés, comme c'est toujours le cas, par exemple, des aborigènes d'Australie, qui savent extrêmement bien, ou qui savaient plus exactement, extrêmement bien régler, en quelque sorte, la hauteur des flammes, un peu comme vous réglez le gaz, disons la flamme de votre gazinière. Et puis après, maintenant, il y a un pyrocène numéro 2 qui est le méga-feu. Et je pense que l'intérêt de cette lecture, c'est de dire qu'on a changé de régime de feu. Ce qui ne veut pas dire que le régime de feu qui correspond à la combustion des énergies fossiles et le régime de feu qui correspond au feu aborigène ou au feu d'entretien ont disparu, pas du tout. Mais voilà, il se trouve que par exemple le méga-feu, qui est un nouveau régime de feu, ne concerne que 3% des feux à peu près, mais des incendies de forêt, etc. Mais en fait, est responsable de plus de 60% des surfaces brûlées. Donc là, on voit qu'il y a un emballement, une disproportion très très grande, et que eh ben, il va falloir faire quelque chose où on peut imaginer des scénarios d'embrasement de la planète.
Et quelles leçons il faut tirer justement de ce constat, de cette lecture? Est-ce que ça veut dire que le feu, ces méga-feux, ces incendies de plus en plus récurrents, il faut tenter d'apprivoiser le feu, il faut apprendre à vivre avec le feu? Vous employez vous-même une expression, vous dites qu'il faut développer une culture du feu. Qu'est-ce que cela signifie?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, il me semble, c'est que, et je ne suis pas spécialiste, moi je suis philosophe, hein, je le rappelle, mais malgré tout, je pense qu'il faut comprendre qu'une fois que le méga-feu est déclenché, on ne pourra plus rien faire. Hein, ça, c'est très très important. Autrement dit, on ne peut pas vivre avec ce feu. Là, la présence, enfin le développement d'un feu de ce type est totalement incompatible avec quelque activité vivante, humaine, ou de quelque organisme que ce soit, qu'on puisse imaginer, qu'on puisse envisager. Donc non, là, ce feu, c'est la mort, c'est vraiment la destruction, après quoi renaît quelque chose, mais qui ne sera jamais l'équivalent l'équivalent de ce qui a disparu, qu'il s'agisse des animaux, qu'il s'agisse de nos souvenirs, de nos photographies, de nos maisons, qu'il s'agisse des plantes, de la forêt. Voilà, on ne reviendra jamais à l'identique, parce que, en tout cas, pas à l'échelle de la vie humaine. Et puis, évidemment, on peut se dire que la culture du feu, non, elle ne consisterait pas à faire avec ce type de feu qui est réellement invivable, mais prévenir ce type de feu. Alors, pour les prévenir, plein de solutions s'offrent à nous. Je les ai développées, d'ailleurs, le plus possible dans mon ouvrage. Et puis, je continue à rencontrer sur le terrain des gens qui développent des techniques de prévention du méga-feu. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. La première, ça serait quand même de reconnaître l'origine climatique, évidemment, de ces méga-feux. Et donc, la solution réside évidemment, si tant est qu'on puisse parler d'une solution, dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'autant que les méga-feux, c'est aussi une de leurs caractéristiques, contribuent énormément au dérèglement climatique, puisqu'ils seraient responsables de 30% des émissions, en fait, quasiment aujourd'hui. Donc, ça, c'est un aspect. Et d'autre part, ce que faisaient les aborigènes en Australie, ce que font les Corses en Corse et tous les paysans, les éleveurs, etc., c'est de pratiquer justement une culture du feu, c'est-à-dire des feux dirigés, des feux, des brûlages superficiels pour maintenir une quantité de matière sèche relativement basse, la maintenir de telle façon que suffisamment de bois sec soit disponible pour la régénération de la forêt, mais qu'il n'y en ait pas trop. Ce qui évidemment mène, quand on est, disons, plongé dans des phases de sécheresse assez longues ou des hausses de température terribles, ce qui mène à transformer la forêt en, en poudrière ou en boîte d'allumettes.
Vous avez commencé à évoquer, hein, Joël Zask, le double effet hein, de ces méga-feux. Ils sont évidemment le fruit, on l'a dit, hein, du réchauffement climatique, mais dans le même temps, ils l'accélèrent également à travers ce qu'on appelle des boucles de rétroaction. Les feux aggravent le réchauffement climatique qui les favorise. Est-ce que vous pourriez justement expliciter pour nous ces boucles-là dites de rétroaction ?
Ah mais là, c'est très déprimant, en fait, quand on fait le tour de toutes ces boucles dont vous parlez. C'est-à-dire que, bah, d'une part, évidemment, les quantités de CO2 sont colossales. La quantité de méthane rejetée aussi dans l'atmosphère est colossale, surtout quand il s'agit de feux de tourbière, de feux de forêt humide. Et là, les exemples sont très nombreux, qu'il s'agisse d'Amazonie ou des forêts de Sumatra, de Java, de Bornéo sont des forêts humides. La Sibérie brûle. La Norvège a brûlé, donc là, évidemment, quand le permafrost est en quelque sorte atteint ou que les tourbières sont en feu, la quantité de méthane rejetée dans l'atmosphère est absolument considérable. Par ailleurs, les feux visitent les mines abandonnées et des mines dans lesquelles sont enfouis des déchets toxiques, par exemple. Donc là aussi, c'est pas très bon pour la vie en général et relâche dans l'atmosphère les déchets, ça peut être de l'amiante aussi, ça peut être toutes sortes de métaux qui ont été extraits, qui ont été exploités. Donc ça, par exemple, autre effet, moi la liste est longue. Et il faudrait plutôt penser peut-être aux solutions, mais autre effet, c'est que les cendres se déposent, par exemple, sur la glace. Et quand les cendres se déposent sur la glace, évidemment, la glace fond. Elle fond beaucoup plus vite, donc ça crée aussi un effet de dérèglement climatique accru, etc., etc. Et puis, bien sûr, les sols sont emportés. Mmh. Voilà. Donc il y a énormément de. Ouais, c'est vraiment catastrophique, et il faudrait vraiment se réveiller. Arriver à penser que quelque chose doit être fait, que ça n'arrivera pas qu'aux autres. Je me souviens qu'en 2017, déjà, certains scénarios permettaient d'imaginer que 60 à 80% des villes françaises seraient à la merci des feux à l'horizon 2060. Donc on va y être.
C'est ce que j'allais vous demander, Joël Zask, à quel point la France est concernée, menacée par ces feux, plus précisément par ces méga-feux. Vous avez dit ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors à quel point cela peut-il nous arriver ? Elle nous arrive déjà d'ailleurs.
Ça nous est déjà arrivé, mais notre capacité d'oubli est absolument extraordinaire. Et voilà, mais c'est arrivé il y a vraiment très peu de temps et ça va sans doute encore arriver. Bon, là, il se trouve qu'il a beaucoup plu. Bon, alors les climato-sceptiques se réjouissent, mais en fait, ça n'est qu'une parenthèse. Et il me semble qu'aujourd'hui, aucune forêt en France n'est à l'abri d'un méga-feu. Et donc, aucune ville qui soit un tant soit peu au contact des forêts ou dans des zones dans lesquelles la végétation pourrait être inflammable. Donc, il y a, disons, des régions entières qui ont une conscience très forte des risques, hein, notamment en Méditerranée, je pense dans le Gard, dans le Var, où la conscience des risques est devenue très très forte aujourd'hui et où les gens s'organisent pour éviter, évidemment, le phénomène du méga-feu, y compris en débroussaillant par le feu. En Corse, c'est le cas, etc. Donc, non, la France n'est pas du tout à l'abri d'un méga-feu. De toute façon, plusieurs régions ont déjà très, très gravement brûlé dans le passé proche.
Pour parler des solutions, hein, Joël Zask, hein, il y a un axe majeur, vous avez commencé à l'évoquer, c'est évidemment la prévention. L'autre important, majeur également, c'est celui de l'entretien de la nature. Alors dans ce domaine, là aussi, comment peut-on agir pour tenter de prévenir, de circonscrire ces feux à venir ?
Parce que ce que montre aussi Stephen Pye, dont on a entendu un extrait tout à l'heure, c'est que la nature est habitué au feu, d'une certaine façon, ou plus exactement au feu aborigène. C'est-à-dire que la nature qui existe, c'est le cas de la forêt méditerranéenne, c'est le cas de la forêt californienne, c'est le cas de l'Amazonie en grande partie, etc., etc. C'est une du bush australien, c'est une forêt qui a été sélectionnée pour résister aux usages humains du feu, et donc aux brûlis. Et cette forêt a besoin, d'une certaine façon, d'un passage relativement régulier du feu. On sait que certaines espèces ont besoin du feu pour se reproduire, que par exemple les pins, c'est sous l'effet de la chaleur des feux qu'ils dispersent leurs graines, bon, etc. Certains arbres. Donc on parle d'espèces pyrophiles. Et ça, c'est très important de comprendre que les espèces pyrophiles sont des espèces qui résistent au feu. Elles ont été sélectionnées ainsi sur des dizaines et des centaines de millions d'années, de milliers d'années, pardon. Et donc, et elles sont adaptées en quelque sorte au feu. Il est clair que ces pratiques du feu humaines ont eu un impact considérable sur la Terre, sur en tout cas la nature dont on connaît quelque chose et qui entre dans le champ de notre perception. Mais il se trouve que ce qu'on a aujourd'hui est qu'un équilibre avait été trouvé, que ce qu'on a aujourd'hui est un paysage du feu. Un paysage produit par, en grande partie par les feux, hormis évidemment les océans et les montagnes inaccessibles.
Merci.
Et donc, il me semble que c'est ça qui est important de remettre en quelque sorte en route, c'est-à-dire de s'occuper en quelque sorte de nos espaces naturels qui ont, dans une certaine mesure, besoin de ce que les aborigènes appellent un ménage, c'est-à-dire une espèce d'entretien qui relève du soin, qui relève de l'aménagement, qui relève du ménagement, qui relève de la culture.
Merci beaucoup. Joël Zas, pardonnez-moi de vous couper, on arrive déjà au terme de cet entretien et vous êtes à distance. Je rappelle que vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'Université Aix-Marseille. Je rappelle aussi le titre de votre ouvrage passionnant dans lequel vous précisez beaucoup de ces constats mais également de ces solutions quand la forêt brûle, hein, qui apparaît aux éditions Premier Parallèle. Merci à vous d'être venu dans Question du Soir.